dans la Bible, tout commence toujours par une généalogie. Généalogie du ciel et de la terre, des hommes et des femmes, des animaux, des herbes et des arbres des champs. Le premier homme s'appelait Adam et sa femme Ève. Selon la tradition biblique, Adam et Ève vivaient dans la grande plaine fluviale qui se situe entre le Tigre et l'Euphrate, dans une région luxuriante appelée Éden, qu'ils durent quitter à la suite d'une histoire compliquée d'import-export de fruits, dont certains disent qu'il s'agissait de pommes. Ce qui fait beaucoup rire les historiens, car il est clair que dans cette aventure, il n'y eut jamais la moindre trace de pommes, pas même un pépin, et qu'il s'agissait plutôt de figues, même si pour certains commentateurs, il s'agissait de blé ou encore de raisins. Installés à l'est d'Éden, Adam et Ève eurent plusieurs enfants, dont les plus connus sont Cain et Abel, et leurs jumelles nées en même temps. Des frères qui se disputèrent pour des motifs qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas été vraiment élucidés et entraînèrent la mort d'Abel. Meurtre prémédité, accident, ignorance des conséquences des coups portés sur la personne de son frère, nul ne le sait. Abel emporta le secret dans sa tombe, et le secret regardait Cain. À la suite de la mort de son frère, Cain devint errant à travers le monde, puis devint sédentaire. Il créa des villes et commença à développer le commerce et l'industrie. Pour les parents, la mort de l'enfant fut un choc terrible. La venue d'un troisième garçon les consola un peu. Ils l'appelèrent Chet, c'est-à-dire celui qui vient à la place d'eux, celui qui fonde. Chet, à son tour, eut un fils qu'il appela Enoch, c'est-à-dire humanité. Ainsi commença l'humanité. Mais dans le texte biblique, tout ne va pas aussi vite. Le texte se déploie en quatre longs chapitres où l'histoire balbutie, trébuche, se répète, s'obscurcit, puis s'éclaire. Nous sommes au cœur des premiers mythes bibliques qui, au moins pour les 11 premiers chapitres de la Genèse, se déroulent dans un contexte géographique et historique clairement mésopotamien, dans cette civilisation de l'argile à qui l'on doit les premiers récits du déluge et de la tour de Babel par exemple. Une façon peut-être de souligner que notre civilisation occidentale, éminemment fondée par ces textes, doit toujours, même si elle s'en distingua par la suite, tenir compte de cette origine mésopotamienne pour se comprendre et se demander en quoi cet apport culturel fondamental modèle encore son présent et peut l'aider à en forger l'avenir. Des milliers de pages ont été écrites sur la naissance du premier homme et de la première femme dans la Bible et de leur aventure dans le jardin, mais aucune de ces pages ne permet de faire l'économie de se poser les questions pour nous-mêmes, pour notre génération, à la lumière des problèmes nouveaux qui émergent dans le cours de l'histoire. Floriane Chinsky, bonjour.
Bonjour.
Floriane Chinsky, c'est un grand plaisir de vous recevoir dans Talmudique. Vous êtes aujourd'hui rabbin du mouvement juif libéral de France, après avoir été rabbin à Bruxelles et dans différentes communautés, tant en Europe qu'en Israël. Vous avez obtenu votre ordination rabbinique à l'Institut Scherter à Jérusalem et vous êtes docteur en sociologie du droit, votre thèse ayant porté sur les représentations sociales de la loi juive et de sa flexibilité. Vous avez aussi une formation en conseil thérapeutique et direction de groupe d'entraide. Et vous vous êtes tout particulièrement intéressé aux récits de création de l'homme et de la femme, à propos desquels vous venez de faire paraître un article intitulé « Adam et Ève », sous-titré « Lequel choisirez-vous » Sous-titre étrange, quel choix avons-nous à faire, Floriane Chinsky?
Oui, merci pour cette belle introduction. La question du choix est une question importante et saisissante. Comment orienter nos choix et comment même endosser le fait que nous avons des choix que nous devons assumer. Le premier choix à faire, sans doute, très souligné par la tradition juive, c'est le choix de l'étude, de prendre le texte, de l'ouvrir et de décider de s'y confronter de façon directe. Et c'est déjà un choix courageux quand on sait tous les préjugés, tout ce qui est plaqué sur l'idée de Adam et Ève, tout ce qu'on en a fait en termes d'idée de soumission de l'être humain à Dieu ou en termes de secondarité de la femme par rapport à l'homme, quand on a tous ces préjugés en tête, ouvrir le texte et s'y confronter, c'est déjà un choix important. Et en même temps, est-ce que nous pouvons faire l'économie de nous confronter au plus difficile de nous-mêmes, de laisser refouler ce qu'il est? À mon avis, notre liberté nous demande d'aller explorer ça. Donc Jean-Paul Sartre disait, on n'a pas le choix, même ne pas choisir, c'est déjà faire un choix. Mais ne pas choisir, c'est faire le choix de ne pas assumer, de pouvoir se raconter des histoires sur notre impuissance. Or, nos impuissances et nos silences et nos culpabilités, en réalité, ont des conséquences très très réelles qu'on sent très très fort dans le monde d'aujourd'hui. Donc faire le choix de se confronter au texte de la Bible, parce qu'il a alimenté tellement d'idées qui changent notre vision du monde encore aujourd'hui, et se confronter également au choix d'ouvrir les pages de nos livres intérieurs, par rapport à ce qui est le plus douloureux pour nous. En tant qu'être humain, en tant que peuple, je parle par exemple du judaïsme, en tant que nation, par exemple, en tant que, pour la France ou pour les autres nations du monde, pour endosser le pire de notre passé et pas essayer de le recouvrir dans une espèce d'angélisme qui nous éviterait de prendre nos responsabilités. Donc, le choix, il n'y a pas les faits et on est obligé de les suivre. Il y a des faits que nous interprétons, mais Marc-Alain Wachnin, c'est ce que vous enseignez en permanence, les faits, la façon dont nous les interprétons et la façon dont nous les mettons en œuvre par la suite. Et par rapport à ça, en fait, le choix de quel Adam, alors je dis Adam, c'est Adam et Ève en même temps, et c'est comme ça que je le dis dans le livre aussi, l'Adam, parce que c'est l'Adam, comme on dirait, telle ou telle espèce d'une façon générale, derrière la question, quel Adam ? Quel groupe, quelle humanité vous choisirez, en fait, déjà, rien que le fait de décider de faire le choix, c'est déjà reprendre un pouvoir qui est notre devoir. Et ensuite, est-ce que l'Adam a été créé en premier, au tout début du monde? Et c'est une nécessité parce que, dans la tradition juive, on peut pas imaginer de teshuva, de repentir, de réexamen de soi. On peut pas envisager de teshuva si on n'a pas fait le choix. Si on est juste une feuille flottant au fil de l'eau, au fil d'une volonté divine toute puissante, de quoi je vais faire teshuva? Si j'ai pas réfléchi, décidé, quitte à me tromper, si j'ai pas réfléchi, décidé, je peux pas évaluer ce que j'ai réfléchi et comment le redécider. Je peux pas être dans l'alliance absolument incroyable qui unit, c'est ce que nous racontons, le créateur du monde et cette petite chose qui est nous aujourd'hui dans les 70 ans de nos vies. 120, on espère.
120, on espère, oui. Alors, vous dites, le choix, c'est le choix même de choisir et son importance, vous venez de le souligner, mais dans le texte biblique, il y a plusieurs versions de la création de l'humain, de l'homme, de cet Adam, de cet Adam et Ève, et il y a au moins deux, voire trois versions différentes. Commençons, si vous le voulez bien, dans l'ordre. Que dit précisément le premier récit et que nous apprend-il? Mais avant d'entrer dans le détail des versets, j'aimerais souligner un point de traduction fort intéressant qui soutient votre réflexion. Dieu, dans le texte, apparaît parfois sous le nom d'Elohim et parfois sous le nom imprononçable du tétragramme et parfois encore sous ces deux noms. Là aussi, il est question de choix, celui de la traductrice que vous êtes. Vous assumez une façon originale de traduire ces noms divins et ceci n'est pas sans conséquence sur la compréhension du récit et de ses variantes, Florian Chinsky.
Absolument, c'est comme si la Bible et la tradition juive en général essayaient de nous empêcher de ne pas choisir, parce que ce serait tellement simple. Et donc, pour qu'on puisse pas faire l'innocent, on a deux récits de la création de l'homme et ils ne concordent pas. On en tire plein de choses merveilleuses, mais bien sûr, le Midrash les rapproche. Mais l'essentiel ici, c'est de te dire, t'as cru que je t'ai raconté l'histoire de la création d'Adam et Ève, il y en a une deuxième maintenant. Vas-y. Fais quelque chose avec ça. De la même façon, encore plus incroyable presque, il y a deux versions des 10 commandements dans l'Exode et dans le Deutéronome. Et là, c'est le même texte, sauf que c'est pas le même. Et de la même façon, avec les noms de Dieu, pour moi, la Torah nous dit, l'enseignement du judaïsme nous dit, tais-toi. N'essaie pas de prétendre à une vérité, et on a dans la tête une infinité de midrashim qui tournent autour de ça, pour être succinct. Simplement déjà le fait qu'il y ait plusieurs noms de Dieu nous empêche fondamentalement de dire « Au nom de Dieu, je vous le dis la vérité, et ceci ou cela, quel Dieu, lequel ?» Où est-ce que tu as vu ça, première chose. Deuxièmement, encore plus interpellant, le Dieu unique, son nom est au pluriel Elohim, donc amusons-nous, allez-y les amis, au nom de quoi vous revendiquez les totalitarismes et les folies. Ensuite, le mot Elohim inclut ce L vers la direction. C'est quelque chose qui t'amène vers autre chose. Et c'est effectivement ce que Dieu dit à Abraham, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'ai fait sortir de Ur-Kasdim. C'est ce que l'Éternel dit également aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, sors et va quelque part et prends la responsabilité de où tu vas. Et donc c'est ce Elohim au pluriel, et que je traduis effectivement dans le livre par les forces. Elohim, c'est traduit souvent comme ça, de plein de façons différentes, souligné par des commentateurs anciens et nouveaux, sans parler même du nom même de Dieu, de son petit nom, enfin, du Yud-Heh-Vav-Heh. Et il y a deux fois la lettre He, je le dis parce que c'est quelque chose qui est important aussi. Ces quatre lettres qu'on ne sait pas prononcer. Taisons-nous à propos de Dieu. Commençons à nous occuper de ce qui nous concerne, à prendre nos responsabilités dans nos lectures de la vie, du sens de l'existence de l'homme, de l'humanité, du sens de la solidarité humaine aujourd'hui.
Revenons au premier récit, au premier scénario de la création de l'homme. Ici, c'est le nom Elohim qui est convoqué. Que dit le texte et comment l'interprétez-vous, Florian Chinsky?
Que dit Dieu dans le premier chapitre de la Genèse? Eh bien, Dieu se parle à lui-même. Faisons l'homme à notre image. On comprend qu'il y a une complexité qui est reprise par de nombreux midrashim, qu'il y a une complexité même de la façon dont on envisage Dieu, et ça nous renvoie à la façon dont nous pouvons nous envisager nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes unis en tant qu'individus, mais on est aussi souvent très disparates, on est souvent pas cohérents les uns avec les autres. Et c'est intéressant de voir, de même qu'il y a les 10 sphirotes, 10 qualités de Dieu qu'on essaye de projeter pour essayer de comprendre quelque chose, de même de voir en nous quel type de voix, quel type de personnages peuvent se succéder, comme « Ah, je suis contente d'être avec vous à la radio » ou comme « Chers amis, nous avons quelque chose à faire aujourd'hui ». Et c'est pas du tout les mêmes dimensions, c'est pas les mêmes personnages. Et nous sommes composés de toutes ces choses-là. Donc, de nouveau, atteindre, et c'est rechercher la cohérence, rechercher l'unité, tout en étant conscient et patient, avec le fait que nous sommes habités par de nombreuses questions et de nombreuses forces. Et c'est une vraie conquête, parce que dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu dit à la dame, conquérez la terre, kifchoua. Et moi, ça me renvoie directement au Pirkei Avot, qui est le fort, qui est le puissant, celui qui part à la conquête de son intériorité, de ses tendances, de ses pulsions, de ses différentes voies, de son univers intérieur. C'est ça la force, d'après les Pirkei Avot, d'après Ben Zoma. Et c'est intéressant parce que ça nous encourage à partir à cette conquête devant laquelle nous sommes tous égaux.
Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Entre l'ancien et le nouveau, votre lutte à tous les niveaux de la nôtre est indivisible. Dans les hommes qui font les lois, si les uns chantent par ma voix, d'autres décrètent par la Bible. Le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne oraison, l'image d'Ève et de la pomme. Face aux vieilles malédictions, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Pour accoucher sans la souffrance, pour le contrôle des naissances, il a fallu des millénaires. Si nous sortons du Moyen-Âge, vos siècles d'infini servage pèsent encore lourd sur la terre. Le poète a toujours raison, qui annonce la floraison d'autres amours en son royaume. Remet à l'endroit la chanson et déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Il faudra réapprendre à vivre, ensemble écrire un nouveau livre, redécouvrir tous les possibles. Chaque chose enfin partagée, tout dans le couple va changer d'une manière irréversible. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume.
Parfois, certaines archives, paroles ou musiques, s'imposent naturellement dans la conversation que j'ai avec les invités de Talmudic, ce qui est le cas aujourd'hui. Aragon, Ferrat, un beau plaidoyer pour la femme et le couple. Chaque parole de ce texte trouve sa place dans les commentaires que vous faites de ces récits bibliques de création de l'homme et de la femme, plus proche du poète que du lecteur biblique, ou alors proche du lecteur biblique qui sait être poète, proche aussi de l'esprit du judaïsme que vous proposez, humaniste, féministe et existentialiste, dans votre lecture du second et troisième récit ou version de cette création de l'homme et de la femme. Que s'y passe-t-il? Quelles innovations, quels enjeux nouveaux, quelles anthropologies s'y dessinent, Florian Chensky?
Oui, donc nous allons rentrer dans les deux récits du premier et du deuxième chapitre, qui sont très très différents, parce que dans le premier chapitre, Dieu crée l'ensemble du monde. Et ensuite, il décide de créer le Adam, de créer l'homme, et il l'installe directement dans le lieu paradisiaque dans lequel il va vivre. Le Adam est créé à la fois homme et femme ensemble, et tous les arbres du jardin sont à la disposition de ce Adam. Et c'est là que s'arrête le premier chapitre.
Vous voulez dire que dans le premier chapitre, il n'y a pas l'interdiction du fruit comme on l'a gardé en mémoire.
Cette interdiction du fruit, effectivement, apparaît dans le deuxième chapitre seulement. Et dans ce deuxième chapitre, eh bien, Dieu crée le Adam en premier. Et ensuite seulement, il plante le jardin. Donc, on se demande dans quels univers le Adam est perdu. Et le Adam est seul et il nomme les animaux. Et en les nommant, en fait, il cherche quel est son rapport de partenariat avec les animaux, quel type de relation il peut établir avec eux. Et aucun animal ne convient au compagnonnage que le Adam recherche. Et suite à ça, et c'est très saisissant, Dieu change de stratégie. Au lieu de créer des animaux à partir de la Adama, à partir de la terre, il crée un être à partir du Adam. Et ce sera, alors pas encore Ève, parce que quand il la voit, Adam lui donne le nom de Isha, parce que lui, il se nomme Ish. Il se nomme Ish, qui veut dire homme, et donc il l'appelle Isha, qui veut dire femme. Donc elle est vraiment, dans ce deuxième chapitre, dans une position de subsidiarité par rapport au premier, par rapport à l'homme qui a la préséance en termes de création. Elle est tirée de lui. C'est lui qui la nomme. Et c'est ensuite, après la prise d'indépendance du couple d'humains à travers le fait que la femme consommera du fruit de l'arbre, c'est à ce moment que la naissance apparaîtra et qu'elle deviendra Chava, qu'elle deviendra la mère de tous les vivants, et donc elle prendra une identité propre. Et dans ce deuxième récit, donc, Dieu endort le Adam. Il prend sa côte ou son côté. Et quand le Adam se réveille, il découvre la femme et il dit « Ah, cette fois, contrairement aux animaux, ou peut-être Lilith selon le Midrash, celle-ci, elle est la chair de ma chair et nous pourrons créer quelque chose ensemble. » Il y a beaucoup de Midrashim qui entourent ça, parfois même de façon un peu féministe. Par exemple, le Midrash autour de la fille de Rabban Gamliel qui... Rabban Gamliel se fait interpeller. « Quoi, votre Dieu, c'est un voleur ?» il a volé la côte d'Adam pour créer Ève, la fille de Rabban Gamliel. Et c'est intéressant ici de voir, dans un univers talmudique très masculin, la volonté des femmes aussi de prendre part à la discussion et l'accord de Rabban Gamliel qui lui dit « Mais oui, vas-y, réponds-lui. » Et la jeune fille répond « Mais faites venir la police tout de suite, il y a eu un vol chez moi. » Il y a eu un vol, quel vol ? Oui, on m'a volé. On nous a volé tous les plats d'argent et on les a remplacés par des plats en or. Alors, le César dit « Oui, mais c'est pas un vol, c'est merveilleux, j'adorerais que ce soit ça qui se produise chez moi. » Et la fille de Rabban Gamliel lui dit « Justement, c'est ce que Dieu a fait avec Adam. il lui a pris une de ses côtes, on est ici dans le deuxième récit, hein, c'est comme ça, il lui a pris une de ses côtes pour en créer une femme, et la fille de Rabban Gamliel dit pour lui donner une servante, et je lis ça avec beaucoup d'ironie, parce qu'on voit ici que tout est inversé, et que c'est la fille de Rabban Gamliel qui reprend ça, donc il y a ce double jeu. En tout cas, voilà ce que une lecture rabbinique fait de ce deuxième récit qui a été mis très très en avant par le monde chrétien, qui est aujourd'hui la conception la plus classique. Les gens sont surpris, pourtant c'est que le deuxième récit. Le premier, il n'est pas comme ça.
Le premier est dans cette égalité de l'homme et de la femme dont vous avez parlé, mais dans le deuxième récit que vous venez de rappeler, il y a ensuite l'histoire de l'arbre et du fruit interdit. Et dans votre lecture, cette capacité que la femme a de se saisir du fruit, pour vous, ce n'est pas une faute, comme on en fait la lecture classiquement, mais l'accession de l'être humain, et en tout cas ici de la femme à sa liberté. Florian Chinsky.
Oui, et je m'appuie sur le texte qui dit, qui est merveilleux, hein, c'est le chapitre 3, le verset 6 de la Genèse. « Et la femme vit que l'arbre est bon à manger, et qu'il est désirable aux yeux, et que l'arbre est agréable pour l'esprit. Et elle prit de son fruit, et elle en mangea, et elle en donna à son homme avec elle, et il le mangea. » Et on voit bien ici que Ève, contrairement aux idées reçues, n'est pas du tout tirée par son désir ou soumise à une espèce de nature féminine. Pas du tout, elle reçoit une information, qui est une information complexe. C'est comme ça qu'est appelé le serpent dans la Torah, Arum. Ça veut dire nu, mais ça veut dire aussi complexe. On qualifie le serpent de Arum, de nu, de complexe, de rusé, comme on le traduit souvent. De même qu'après la consommation du fruit de l'arbre, Adam et Ève seront aussi Arum, c'est-à-dire complexes ou conscients de leur complexité, même si on traduit souvent par « ils se rendent compte qu'ils étaient nus ». La femme a accès à un certain nombre d'informations, et à partir des informations qu'elle a, elle exerce son jugement, elle regarde ce fruit, et on voit ici qu'il y a vraiment des étapes dans le verset qui montrent que c'est un choix raisonné, et c'est un choix qui est important parce que par la suite, certes, Adam et Ève deviendront mortels, mais en devenant mortels, ils deviendront porteurs d'une généalogie. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas d'enfant, s'il n'y a pas une nature humaine périssable, et donc s'il n'y a pas la mort de l'autre côté. Donc peut-être qu'ils avaient le choix entre être bloqués dans une image d'épinal ou accepter toute la douleur de la vie pour profiter aussi de toute la beauté de la vie derrière.
Mais comment vous interprétez à ce moment-là les versets qui parlent, même si on peut faire une nouvelle traduction, de malédiction, justement, de la femme dans l'éducation des enfants, dit Rashi, dans l'accouchement, et le poème de Jean Ferrat, son texte, en fait allusion. Il dit quelque chose qui me semble intéressant. Il dit « Il faudra réapprendre à vivre, ensemble écrire un nouveau livre, redécouvrir tous les possibles, chaque chose enfin partagée, tout dans le couple va changer, une manière irréversible. » Ça, c'est Jean Ferrat. Mais j'ai l'impression, justement, que votre lecture du texte biblique va dans ce sens, c'est-à-dire qu'il y a une relecture, je disais la semaine dernière avec Gérard Haddad à propos d'Ismaël et Isaac, et si on racontait une autre histoire. Vous avez parlé au début de l'émission de la nécessité, de la liberté, le choix que nous devons faire de nous confronter à ces textes complexes. Mais comment, dans ces textes complexes où il est question justement de fautes, en tout cas on pourrait croire, comment vous relisez, comment vous racontez une nouvelle histoire qui est libératrice pour les lecteurs que nous sommes aujourd'hui? Florian Chinsky.
François Ranciac, qui est un metteur en scène, a produit il n'y a pas longtemps
une pièce.
Ah, merveilleux. Qui s'appelait « Chercher la faute », et ça c'est la première partie de ma réponse. Quelle est exactement la faute de Adam et Ève? Est-ce que c'est d'avoir consommé du fruit de la connaissance du bien et du mal que Dieu avait mis au milieu du jardin à la portée d'un être humain dont il espérait qu'il développerait son intelligence? Est-ce que c'est ça la faute? Ou est-ce que la faute, en tout cas moi ça me semble beaucoup plus parlant, c'est que quand Dieu interpelle Adam, il dit c'est pas moi, c'est elle. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a poussé à commettre cette transgression, et quand Dieu demande des comptes à Ève, elle dit « c'est pas moi, c'est le serpent ». Donc, il y a des marges de négociation. Que se serait-il passé si Ève, quand elle a jugé en son fort intérieur que le fruit de l'arbre était bon, elle s'était concertée, par exemple? Si Adam avait été à ses côtés, que se serait-il passé à ce moment-là? Et donc, la faute ici, peut-être, et c'est mon sentiment, est le défaut de collaboration, le défaut de travail commun à élaborer la réalité. Et la malédiction n'en est qu'une conséquence, si on y pense. Et dans le Talmud Brachot, Ben Zoma dit « Comme c'est merveilleux, je me lève le matin et j'ai du pain à portée de main. Et parce qu'il y a des gens qui ont semé, il y a des gens qui ont récolté, il y a des gens qui ont moulu, il y a des gens qui ont pétri. Et quelle chance j'ai par rapport à Adam Harishon, qui lui devait tout faire par lui-même. » Donc il semble que Ben Zoma n'a aucun problème à ce que la malédiction soit levée aujourd'hui, parce qu'une collaboration en termes de production s'est mise en place, et c'est un sujet très actuel aujourd'hui, quel type de production et de collaboration se met en place aujourd'hui, où on en est, et de faire le bilan de ça. Toujours est-il que Ben Zoma a aucun problème à ce que la malédiction soit levée. Et de la même façon, dans le rapport entre homme et femme, si c'est quelque chose qui est de l'ordre du dialogue et de la reconnaissance de l'autre qui se met en place, de la même, et c'est l'une des malédictions de Ève, et l'autre aussi, c'est par rapport au fait d'élever les enfants, si dans les rapports parents-enfants se met en place quelque chose qui est encore une fois de l'ordre de l'alliance, de la brite, nous avons le but commun que tu puisses progresser, eh bien ces malédictions qui sont en fait des conséquences simplement des actes de Adam et Ève, peuvent changer, et c'est ce que proposent Jean Ferrat et Aragon.
Oui, des conséquences, vous le dites très bien, parce que vous dites « voici les engendrements de l'homme », en hébreu « et les toldot ». Et le mot « toldot », vous le dites bien, veut dire « les conséquences », c'est-à-dire que ce que vous avez parcouru, enfin, dans cette lecture, c'est toute la question justement du choix, de la liberté, de l'engagement et de la responsabilité et des conséquences de ces engagements et de ces responsabilités. Cette femme qui est née de la côte ou du côté tsela de l'homme renvoie à la notion d'ombre, tsel en hébreu, que l'on retrouve dans Bezalel, l'artiste par excellence, celui doué de sagesse, d'intelligence et de savoir, à qui l'on doit la réalisation du sanctuaire du désert. Tout le travail interprétatif qui est le vôtre n'invite-t-il pas à penser la notion de création, au-delà des mythes de création, à la création au sens artistique de ce terme? Et l'une des dimensions de cette création artistique ne serait-elle pas, entre autres, mais de manière privilégiée, la création de nouvelles interprétations du texte? Florian Chinsky.
La création artistique, c'est la projection de qui je suis sur de la matière et d'un certain message. Et je suis pas une artiste de cette façon-là, mais je pense qu'il y a des sentiments proches quand on essaye de construire une pensée, de mettre ensemble les différentes pièces d'un puzzle, ou quand on travaille avec des êtres humains, c'est de l'art aussi, autour de l'idée de créer autre chose, de se recréer soi-même. C'est ce que dit Edmond Flegg quand il dit « Je suis juif parce que la foi d'Israël n'exige de mon esprit aucune abdication. » Je suis juif parce que la foi d'Israël réclame de mon cœur toutes les abnégations. Je suis juif parce que pour Israël, le monde n'est pas achevé, les hommes l'achèvent. Je suis juif parce que pour Israël, l'homme n'est pas créé, les hommes le créent. Et à travers le travail artistique tourné vers l'extérieur, on révèle aussi quelque chose de nous et on partage une co-création de ce qu'est pour nous l'humanité.
Merci infiniment Florian Chinsky pour vos beaux commentaires. Les auditeurs pourront poursuivre cette conversation en découvrant votre site dont l'adresse sera présente sur le site de l'émission. Merci pour ce voyage au pays des mythes, comme dit Victor Hugo, un pays où nous entendons des confessions, des confidences sur l'homme et son histoire, un pays qui est testament, hymne, chanson, poème, la splendeur y est grâce et la grâce y est splendeur. Cela va, vient, dit-il, court, revient, pense, sourit, pleure, creuse et s'envole. C'est, poursuit encore Victor Hugo, l'histoire de notre cœur, de notre esprit, de notre bonheur, de notre deuil, de notre pays, de notre temps. Je rappelle le titre de votre article dont nous avons parlé aujourd'hui, Adam et Ève, sous-titré « Lequel choisir ?», que l'on trouve dans un ouvrage collectif qui vient de paraître aux éditions Talendier, intitulé « Les grandes figures de la Bible » sous la direction de Jean-Marie Guénois et Marie-Noëlle Tabu. Merci encore Floriane Chinsky.
Merci à vous.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin et Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Bruno Mourlan, à la réalisation, comme d'habitude, d'Annie Journeau. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de Floriane Chinsky sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Kol Touv, Leïtraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.